La question du jour.
Que sait-on véritablement des relations entre la France et le Qatar? Dans un livre paru jeudi dernier, nos très chers émirs, les auteurs Christian Chesneau et Georges Malbruno dénoncent l'attitude plus qu'ambiguë de certains de nos hommes politiques avec le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Pour redorer l'image de ces richissimes monarchies, certains politiques auraient pour l'habitude d'être copieusement arrosés. Bonjour Akram Belkaïd. Vous êtes journaliste au Monde Diplomatique, chroniqueur au quotidien d'Oran et collaborateur du site Orient 21. S'agit-il d'un fantasme ou d'une réalité, ces hommes politiques français qui seraient payés de manière légale ou illégale par le Qatar?
Non, ce n'est absolument pas un fantasme. Quand on va dans les pays du Golfe et notamment au Qatar et qu'on reste un peu de temps, si on parcourt la presse locale, on se rend compte qu'il y a par exemple une foule de colloques et d'autres réunions où on a énormément d'invités de marque et on trouve toujours régulièrement des personnalités politiques françaises. Ça concerne pas simplement la classe politique française, ça concerne aussi d'autres pays européens, occidentaux, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et on sait très bien que ces participations à des colloques qui n'ont aucun intérêt sont rémunérées et on a parfois la surprise d'entendre des hommes politiques français y louer l'exemple du Qatar, la détermination en matière de droits de l'homme, etc. Bon, ce sont des déclarations de circonstances qui ne grandissent pas leurs auteurs et qui créent le malaise.
C'est un décalage entre le discours que ces hommes politiques tiennent et la réalité du pays?
Bien entendu. Alors, on ne peut pas parler d'exemple positif. On sait très bien que ces monarchies ont de vrais soucis en matière de respect des droits de la personne humaine, des droits des travailleurs. Hein. On parle beaucoup des travailleurs étrangers qui sont là sur les grands chantiers et qui n'ont que très peu de droits. On sait aussi que ces pays sont très influents en matière de diffusion d'une certaine vision de l'islam. Et qu'aujourd'hui, le monde arabe, le arabo-musulman paye le prix fort de cette vision, hein, une vision rigoriste, assez intégriste et fondamentaliste. Donc il y a cette dichotomie qui est permanente et qui, jusqu'à présent, passait un peu inaperçue parce qu'on s'occupait pas trop de ces pays. Mais depuis une vingtaine d'années, dès lors que le Qatar, mais d'autres comme ses voisins, ont décidé d'être influents sur la scène internationale, il est évident qu'il y a un effet boomerang et que, à force de vouloir faire parler de soi, eh bien, les journalistes se penchent sur ces questions-là et lèvent des affaires assez regrettables.
Alors au moins deux hommes politiques, un homme et une femme politique, pour être précis, mis en cause dans nos très chers émirs, ont mis en quelque sorte leur honneur en jeu en allant en justice pour contrer les propos tenus par Christian Chesneau et Georges Malbruno. Il s'agit de Jean-Marie Le Guen et Rachida Dati. Est-ce que vous pensez que le fait de payer encore une fois de manière légale, donc par le biais par exemple de ces colloques, des hommes et des femmes politiques, est-ce que cela influe sur le discours qu'ils tiennent publiquement sur le Qatar?
Alors, il faut bien comprendre que il y a une obsession, je pense que ça relève presque de la psychanalyse, dans les pays du Golfe. Parce qu'il n'y a pas que le Qatar, hein. Il y a les Émirats Arabes Unis, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Koweït dont on parle de moins en moins, Bahreïn. Ces pays ont besoin d'exister, ont besoin d'avoir une visibilité sur le plan international, ne serait-ce que pour être protégés si demain ils venaient à l'idée à leurs voisins de les envahir. Mm-hmm. Donc il y a cette volonté d'exister, d'être sur la carte. Hein, international. Donc du coup, tous les moyens sont bons. Et quand on organise ce genre de colloque, quand on organise ce genre d'opération, on se dit qu'on est protégé et on attend des services en retour. Alors, je dirais pas que il y a une influence majeure, mais néanmoins, quand on regarde par exemple, ça vient d'être cité dans le flash, la question du Yémen, on voit bien aujourd'hui que nos hommes politiques en France sont plus enclins à critiquer et à tomber à bras raccourcis, à juste titre, sur la Russie de Monsieur Poutine que de s'interroger sur ce que fait l'Arabie Saoudite au Yémen, par exemple. Et ça pose un vrai souci de répartition des tâches et de respect de certaines valeurs. Et donc, dans les pays du Golfe, le principe implicite, c'est que tout s'achète. Voilà. Que tout le monde a un prix ou presque.
Vous dites qu'on s'intéresse beaucoup au Qatar. Est-ce que ça signifie qu'on ne s'intéresse pas assez à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, Akram Belkaïd ?
Absolument, absolument. Ce qui me gêne, alors le Qatar doit être critiqué pour ses dépassements, pour certains de ses errements, pour le fait qu'il a été la question de la Coupe du Monde, etc. Ce qui me gêne, moi, dans ce Qatar bashing, c'est que souvent, il oublie. Le reste. Et il oublie l'Arabie Saoudite, il oublie les Émirats Arabes Unis. Ce que fait le Qatar est effectivement le paroxysme de certaines pratiques qui sont les mêmes dans les deux autres pays que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. On s'indigne alors par exemple du fait que le Qatar est omniprésent en matière d'immobilier en France, il a racheté le Paris Saint-Germain, etc. et tout. Mais dans quelques semaines, on va inaugurer le Louvre à Abu Dhabi. Voilà, ça aussi, c'est un autre exemple des relations assez étranges qui peuvent exister entre la France et les pays du Golfe.
Pour quelles raisons, relations assez étranges ? Parce que là, c'est une sorte de franchise. Alors, on peut discuter de l'opportunité de faire du Louvre une franchise, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça recouvre pour vous ?
C'est d'abord un projet étrange. C'est une franchise, certes, mais qui a des implications, je dirais, éthiques et de valeurs qui méritent d'être questionnées.
Par exemple, dans les travaux qui ont été menés ?
Bien entendu.
Je précise juste que ces travaux sur le plan donc des BTP ont été faits par des ouvriers qui ont été parfois sous-payés dans l'irrespect complet des règles du droit du travail.
Bien sûr, on parle beaucoup et à juste titre des chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, des stades, des futurs stades avec des morts, notamment népalais. On parle moins des conditions de travail sur le chantier du Louvre. On parle moins des conditions de travail dans les villes nouvelles, les futures villes nouvelles en Arabie Saoudite, qui impliquent les mêmes acteurs du BTP occidental. Et ça pose un problème. Et il faut savoir tout de même, parce qu'il faut le dire, c'est que c'est plus trop le cas maintenant, mais pendant plusieurs semaines, ces dernières années, on a eu une vraie rivalité entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite.
C'est-à-dire ?
Qui est, grosso modo, qui a le leadership dans la région, qui soutient ou qui ne soutient pas tel ou tel mouvement politique. Et donc, on a eu une vraie, entre guillemets, guerre diplomatique. Et donc, on s'est rendu compte que, par exemple, plusieurs articles incisifs à l'égard du Qatar étaient plus ou moins influencés par ses voisins.
Merci beaucoup, Akram Belkaïd. On vous retrouve dans Le Monde Diplomatique.